RFI, 7h30 à Paris, 5h30 en temps universel.
RFI Matin.
6h30 à Kinshasa. Bonjour Nemo Impis.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
À la une, ce rapport qui se penche sur les potentielles conséquences de la collaboration entre armées congolaises et combattants Wazalendo dans l'est de la RDC.
Et qui pourrait bien venir perturber un éventuel accord de paix alors que la légitimité de ces groupes armés grandit. Vous entendrez l'un des chercheurs qui a travaillé sur ce rapport. Kinshasa qui se dit prête à engager une réforme de la police nationale. Pour cela, il faudra des moyens et des moyens conséquents. Plus de 2 milliards d'euros sur 5 ans et 3 priorités annoncées. Dans ce journal également, la problématique de la migration. Près de 300 personnes encore secourues en Méditerranée hier. Pendant ce temps-là, le Niger compte collaborer avec l'OIM pour rapatrier plus de 4000 migrants expulsés d'Algérie dans leur pays d'origine. Les désirs et les attentes de ces candidats à l'exil, c'est par ailleurs le thème du 5e documentaire de la réalisatrice franco-burkinabé Eleonore Yameogo, venue au Festival de Cannes pour rechercher des financements et des partenaires pour la production de son projet Tata Gabi. Et puis dans 10 minutes, vous retrouvez le journal des sports à la une, la note salée laissée par l'équipe guinéenne olympique de football lors des Jeux de Paris. En République démocratique du Congo, un rapport sur l'évolution du phénomène Wazalendo, ces groupes armés devenus alliés de l'armée dans sa guerre dans l'Est face aux rebelles du M23. Il a été publié par le groupe d'études sur le Congo et l'Institut Ebouteli et se penche sur les origines de cette stratégie, ses motivations et ses conséquences sur les habitants. Un choix qui, selon ces instituts, pourrait laisser un lourd passif politique et même entraver les efforts de paix à long terme. Réagan Miviri est chercheur à Ebouteli et spécialiste des dynamiques de conflit.
Une dynamique à suivre parce que on ne sait pas ce que ça va devenir avec les grands bouleversements qui peuvent arriver, mais notamment aussi avec toutes les pistes de solutions à cette crise. Il faudra tenir compte de cette dimension des armes qui ont été données à ces différents groupes armés et se rassurer que l'on puisse trouver une solution au potentiel problème d'insécurité qui émanerait encore une fois de cette phase de la sous-traitance de la sécurité aux groupes armés.
Dans votre rapport, vous revenez également sur ce que peuvent être les conséquences de cette sous-traitance des aspects sécuritaires de la gouvernance.
Déjà, une des conséquences, c'est que ça affaiblit l'armée et ça renforce des acteurs qui ne sont pas étatiques, qui grandissent en légitimité. Et ce qui fait que, à la longue, ça risque d'être compliqué en fait de remettre l'autorité de l'État sur des territoires que contrôleraient ces acteurs armés qui ont été légitimés par ce label Wazalendo.
Réagan Miviri, chercheur à l'Institut Ebouteli avec Patient Ligodi. Patient Ligodi qui revient également ce matin sur une potentielle réforme de la police nationale congolaise. Les autorités ont présenté un ambitieux projet de loi pour refonder cette institution, souvent pointée du doigt pour des abus et une répartition inégale des effectifs sur le territoire. Le texte a été défendu en fin de semaine à l'Assemblée nationale par Jacquemain Chabani, vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, et il prévoit un programme de réforme sur 5 ans jusqu'à 2029, nécessitant la mobilisation de moyens considérables.
2 milliards 300 millions de dollars sur 5 ans, c'est ce que prévoit le gouvernement congolais pour réformer la police nationale. 3 priorités sont mises en avant dans ce programme. La première, c'est la professionnalisation. Elle absorbe plus de 72% du budget. Cela comprend le recrutement et la formation de 90 000 policiers. Parmi eux, des unités d'intervention, mais aussi des policiers de proximité. Un besoin urgent dans un pays confronté à la montée des gangs urbains. Deuxième priorité, le renforcement du cadre institutionnel. Autrement dit, poser les bases d'une police mieux organisée avec des structures solides et cohérentes. Ce volet représente un peu plus d'un quart du budget, environ 600 millions de dollars. Enfin, un dernier axe porte sur le dialogue entre la police et la population. Il pèse peu dans l'ensemble, presque 3% du budget, soit un peu plus de 50 millions de dollars. Le plan prévoit aussi la mise à la retraite de 10 000 policiers d'ici à 2028, la construction ou la réhabilitation d'infrastructures, un investissement massif dans les équipements, rien que pour cela, près d'un milliard de dollars sont programmés.
Le président togolais Fornia Singbe a réuni ce samedi à Lomé les anciens chefs d'État membres du panel de facilitateurs désignés par l'Union africaine pour le processus de paix entre la RDC et le Rwanda, le Nigérian Olusegun Obasanjo, le Kenyan Uhuru Kenyatta, le Botswanais Mokgweetsi Masisi, la Centrafricaine Catherine Samba-Panza et l'Éthiopienne Saleh Worksehoudé étaient présents. Objectif: harmoniser les approches de médiation et renforcer la coordination avec les partenaires régionaux et internationaux dont la communauté d'Afrique de l'Est, mais également la SADC, le Qatar et les États-Unis. L'actualité du continent toujours en bref. Au Congo-Brazzaville, l'Observatoire des droits de l'homme a déploré vendredi dans un communiqué la disparition depuis 5 jours de Lassine Bouity Grass, homme politique congolais, leader du parti Les Socialistes. L'ONG affirme qu'il n'a plus fait signe de vie depuis qu'il a été enlevé par des hommes non identifiés. C'était le 11 mai dans un quartier de Brazzaville. Selon l'ONG, M. Mbouiti a manifesté son intention de se porter candidat à la présidentielle de 2026. Un nouveau sauvetage de candidats à la migration hier en Méditerranée. C'est le navire Ocean Viking de l'ONG SOS Méditerranée qui est intervenu à 3 reprises au large des côtes de la Tunisie et de Malte pour venir en aide à plus de 270 personnes. Quand les chiffres de l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, font état de près de 2500 personnes disparues ou mortes en Méditerranée pour l'année 2024, en 2025, elles seraient déjà près de 500. Magali Lagrange.
6 enfants et 3 bébés font partie des dizaines de personnes secourues hier par l'Ocean Viking en Méditerranée. 276 en tout, originaires des territoires palestiniens, d'Érythrée, d'Éthiopie, de Guinée ou encore du Soudan. Des passagers épuisés à bord de 3 embarcations différentes, en détresse, au secours desquelles s'est porté tour à tour le navire ambulance de l'ONG SOS Méditerranée. L'Ocean Viking a été alerté une première fois tôt le matin concernant une embarcation en bois surchargée au large des côtes tunisiennes. Puis à 2 autres reprises dans la journée, les passagers des 3 embarcations ont pu recevoir des soins et être mises en sécurité à bord. Les autorités maritimes italiennes ont attribué comme lieu de débarquement le port d'Ancône, une décision que regrette l'ONG car il est situé à quelques 1500 km du lieu du dernier sauvetage, une distance qui impose 4 jours de plus de navigation rescapée et qui éloigne son navire des zones où les naufrages sont les plus fréquents.
Migration encore et le Niger qui va appuyer l'OIM pour rapatrier plus de 4000 personnes vers leur pays d'origine d'ici le mois de juillet. L'annonce a été faite par Ibra Boulamaïssa, le gouverneur de la région d'Agadez, pour, je cite, éviter un désastre humanitaire. Niamey a constaté une hausse des expulsions de migrants par l'Algérie vers le nord du Niger le mois dernier, parlant d'une vague de refoulement sans précédent. Sur ce seul mois d'avril, la police d'Assamaka à la frontière algérienne a dénombré plus de 6000 refoulés contre 7000 pour les 3 premiers mois de l'année. Conséquence, les centres d'hébergement sont surpeuplés et les conditions de vie y sont largement dégradées. Je vous propose d'écouter Azizou Chehou, coordonnateur de l'ONG Alarm Phone Sahara.
Le gouvernement, de manière générale, a pris la question à bras le corps. C'est la deuxième mission officielle qui se déplace pour voir des visus ce qui se passe à Assamaka. Et si les autorités pensent qu'il faut prendre des mesures d'accompagnement, nous trouvons que c'est tout à fait normal parce que ces personnes-là ont été refoulées des pays du Maghreb, en particulier de l'Algérie, et ils sont à Assamaka, une petite bourgade avec moins d'opportunités, avec une température maximale de 47 voire 48 degrés et sans abri, les centres de transit étant débordés, et si effectivement il peut y avoir de discussion entre les différents pays d'origine de ces personnes dans cette situation. Et pour le rapatriement, nous ne pouvons que saluer cette initiative parce que la situation est insoutenable du côté de Samaka, comme il a été dit.
Azizou Chehou de l'ONG Alarm Phone Sahara, joint par Magali Lagrange. Répondre aux besoins de Madagascar en matière d'énergie, alors que près de 9 habitants de la grande île sur 10 vivent toujours sans électricité, l'État malgache a officiellement annoncé son entrée au capital du consortium chargé du pilotage de la plus grosse centrale hydroélectrique du pays. Un projet situé à Saoufk, dans le centre du pays, sur la rivière Onivé, projet qui a accumulé plus de 6 ans de retard, mais qui, s'arrêtait tôt, pourra produire jusqu'à 200 MW contre une production nationale annuelle de moins de 800 MW.
En achetant 49% des parts via le fonds souverain malgache, l'État malgache est devenu cette semaine le troisième actionnaire à intégrer le consortium NEO, aux côtés de Temis et Eranov, deux développeurs panafricains spécialisés dans les projets énergétiques en Afrique. L'entrée de l'État au sein de l'actionnariat devrait permettre au consortium d'obtenir des prêts à des taux préférentiels, car tel est désormais le nœud de la guerre. Estimé à 1 milliard d'euros, le projet prévoit la construction d'un barrage hydroélectrique, d'une usine de production, de 60 km de route d'accès et de deux conduites forcées. Autant d'infrastructures qui nécessitent un soutien financier conséquent.
Et justement, Sarah, de ce point de vue, où en est-on actuellement ?
On ne part pas d'une feuille blanche, loin de là, rassure une source proche du dossier. En effet, avant la pandémie de Covid-19, une quinzaine d'investisseurs avaient déjà manifesté leur intérêt. Aujourd'hui, c'est à la Banque africaine de développement, en charge de l'arrangement financier, et au consortium NEO de les convaincre de se remobiliser. Quant à la construction du barrage, trois entreprises sont en lice, une chinoise, une turque et une portugaise. Les négociations débuteront dans les prochaines semaines avec une décision attendue d'ici la fin de l'année. Sarah Teto, Antananarivo, RFI.
Et vous retrouvez encore plus de détails sur ce projet de barrage hydroélectrique sur notre site internet rfi.fr. À la fin de ce journal, dans le sud de la France, à Cannes précisément, où le 78e Festival International du Cinéma bat son plein. Sur la croisette, nombreux sont ceux qui viennent présenter leurs films ou documentaires. D'autres sont là pour rechercher des financements et des partenaires pour leur production. C'est notamment le cas d'Eléonore Yameogo, réalisatrice franco-burkinabé mondialement reconnue. Elle participe au marché du film pour son projet intitulé Tata Gabi, un film documentaire qui se déroule dans le milieu des migrants subsahariens coincés par milliers à Casablanca au Maroc et parmi eux de nombreuses femmes. Ouda Ibrahim a croisé Eléonore Yameogo.
Déjà dans son premier film, Paris, mon paradis, tourné en 2011, Eléonore Yameogo questionnait le bonheur que les émigrants africains sont venus chercher à Paris. Elle avait filmé en réalité l'enfer et la galère de la vie parisienne de trois Africains à Château Rouge. Elle casse le mythe d'une réussite facile entretenue en Afrique. Filmer la marge, le hors-champ, est également au cœur de son cinquième documentaire en projet. Elle compte mettre en lumière l'attente de femmes subsahariennes à Casablanca et leur désir de traverser vers l'autre rive de la Méditerranée. Elle vient au marché du film dans l'espoir de faire avancer son projet.
Au-delà de mon projet, pour moi, Cannes, c'est le lieu où il faut être quand on est cinéaste, parce que c'est un moment de communion, un moment de partage avec ses autres confrères cinéastes. Et c'est important de voir le travail des autres aussi. Moi, je me nourris du cinéma des autres pour mieux réinventer mon regard sur mon cinéma. Le plus grand défi, c'est à chaque fois comment trouver la bonne production pour vous accompagner dans votre projet de film. Il faut qu'il y ait beaucoup d'affinités.
Eléonore Yameogo lutte à travers les réalités qu'elle constate contre les illusions qui polluent la jeunesse de son pays, le Burkina, tout comme le reste de l'Afrique. Ouda Ibrahim, Festival de Cannes, RFI.
Et c'est à Cannes que se referme ce journal. Je vous repasse la main, Julien Coquelroem.
Merci Nemo Opis. À tout à l'heure. RFI Matin.